Au fond, Fabrice Pelletier n'avait jamais douté. Sa mise et sa mine s'affichaient équanimes. Dès qu'il avait conçu son projet, plusieurs années en arrière, il savait qu'il toucherait une corde sensible, que le public répondrait présent. Et il n'avait pas réellement anticipé l'appropriation par les populations des zones sensibles, en tout cas pas à ce point. Mais il avait prévu cette montée en puissance qui le conduisait d'Illiers-Combray au Stade de France. Le Stade de France. Tous les observateurs en étaient encore à se frotter les yeux. Mobiliser une centaine de milliers de places, pelouses comprises, pour la prose d'un écrivain souffreteux mort depuis un siècle, relevait pour eux de l'aberration. Il leur fallait pourtant se rendre à l'évidence. La foule convergeait vers l'enceinte mythique qui avait accueilli en son temps la victoire mondiale des Bleus. Ne pas douter. Il était encore trop tôt pour Fabrice, modérément superstitieux, pour reconnaître qu'il avait craint parfois de ne pas aller au bout. Des vitamines l'avaient soutenu tout du long. Comme il n'avait de compte à rendre à aucune fédération, il s'autorisa des adjuvants qu'un contrôle aurait condamnés. Mais il n'avait jamais frôlé la ligne jaune. S'il avait fallu parler de dopage, on aurait précisé qu'il avait été rudimentaire. Fabrice pouvait savourer l'apothéose. Les 254 pages du temps retrouvé se présentaient comme son bâton de maréchal, son nirvana, son défi ultime. Pour cette clôture, il avait voulu un couronnement original. Il avait donc choisi de modifier l'ordonnancement des deux séquences quotidiennes et le changement serait cardinal, quasiment du non-stop, des séances en continu, du concentré, mais avec repos obligatoire la nuit. Il y aurait de courts entractes pour les moments où la santé, le tonus, les besoins de Fabrice imposerait qu'il se retirât. Pendant ces pauses, seraient projetées en boucle les œuvres picturales et sculpturales des artistes réels citées lors de toutes les représentations. Il y en avait 95, soit la presque totalité, rare étant celle qui avait échappé aux recherches de la SANPAC qui en avait pris l'initiative. Il fallait y ajouter quelques fleurs, lilas, aubépines, coquelicots, bleuets, fleurs de pommier, iris, cassis, cattleya, fleurs de cerisier, de poirier, seringa, et quelques robes et manteaux de fortuny. À raison de 13 secondes par image, cela faisait une vingtaine de minutes. Comme tous les amoureux de Proust, Fabrice rêvait depuis longtemps de voir les tableaux d'Elstir, d'entendre la musique de Vinteuil, de lire les textes de Bergotte. Antoine eut une idée qui permettrait un début d'accomplissement de ses impossibles souhaits. Après l'épisode de mars, des concours publics avaient été lancés, efficacement relayés par les médias classiques et électroniques. On demandait aux plasticiens de peindre quelques-uns des tableaux cités dans la recherche et aux compositeurs d'imaginer une œuvre. Une seule s'imposait, la petite sonate. Pour les toiles, on en réclama trois, les asperges, le portrait de Miss Sacripant et celui de la Duchesse de Guermantes. Les extraits où ces œuvres sont évoquées étaient fournis au créateur. les créations retenues par un jury de maître S-Prousterie, auquel Fabrice n'appartenait pas, seraient présentées pour les tableaux et interprétées pour la sonate lors de l'épilogue. Les tableaux allaient être agrandis pour pouvoir être déroulés du toit du stade, tandis que 3 formations de musique de chambre avaient été sélectionnées, une belge, une allemande et une du Limousin. Les textes furent exclus car c'eût été ajouté des mots aux mots dont le public était déjà rassasié. De ce côté-là, sur une idée de l'attaché de presse, le panneau géant sur lequel s'était affiché l'historique 3-0 de la finale de 1998 serait cette fois utilisé pour indiquer au fur et à mesure du récit le résumé du passage en cours. Les équipes de Lettres pour tous avaient été chargées de la rédaction en style télégraphique. Pour l'intendance, la direction du stade prenait tout en charge, habituée aux questions de sécurité, de salubrité et de santé. Pour toutes ces raisons, le Stade de France ne pouvait être ouvert jour et nuit. Les lieux devaient donc être vidés de 1h à 6h du matin. Dans les 19h restantes, l'accès était libre et gratuit. Les coûts n'en étaient que plus élevés et un petit groupe de sponsors s'était réuni pour l'assumer, succédant ainsi au Dr Speck. Il comprenait, honneur aux dames, Inès de la Fressange, active pédégère d'une marque de chaussures, éternel mannequin pour le grand public qui aimait son bagout, avec le soutien sonnant et trébuchant de Karl Lagerfeld, qui avait pourtant en horreur l'idée que ses actions de mécénat fussent sues. Max Guazzini, président du Stade de France et qui partageait la passion pour Proust, en dehors de celle connue qu'il avait pour Petula Clark et le chant grégorien. Xavier Niel, multipropriétaire. Iliade et l'opérateur de téléphonage, Free, Le Monde et les droits sur Comme d'habitude de Claude François. Malamine Connet, créateur d'Ernest, l'équipement sportif que ce Malien d'origine avait installé à Saint-Denis. Fabrice avait d'ailleurs fait dire à M. Connet, qui avait choisi la panthère comme logo en souvenir de son surnom quand il tâtait de la boxe, que le nom de l'animal est cité une fois dans la recherche. « Je sais », lui avait fait répondre l'Africain. « C'est quand le baron de Charlus déclare à propos d'une princesse d'Iéna, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une pauvresse couchant sous le pont d'Iéna et qui avait pris pittoresquement le titre de princesse d'Iéna, comme on dit la panthère des Batignolles ou le roi de l'acier. » Dites bien à M. Pelletier, avait-il ajouté à Farid dans le rôle d'émissaire, que je frime. Je l'ai su en tapant « panthère » sur Internet. Moi, j'étais la panthère dionysienne. Je n'ai jamais lu Proust, enfin, pas encore. Mais j'admire ce que lui, il a fait pour le populariser. Et en guise de remerciement, il lui offrit le premier des maillots Ernest avec le nom Proust, imprimé dans le dos en majuscule, avec, comme numéro de dossard, le 122, clin d'œil au train d'1h22. Le noyau dur, mariant culture et capitalisme, payait tout.